Je suis heureux de présenter les participants à ce panel. Jérôme Heurtaux est maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et il est actuellement directeur du Centre français du CFRS à Prague. Catherine Gousseff est directrice de recherche au CNRS. Et rattaché au CERSEC. Piotr, si j'écorche votre nom, me pardonnerez avec un peu de chance. Piotr Ftichlik. Bon, ça ne va pas dire que je m'égratrinerai, que j'y parviendrai la prochaine fois. Alors là, c'est compliqué votre. Vous êtes directeur adjoint du Centre d'humanité digitale à l'Institut de recherche littéraire. Vous êtes à l'Académie des sciences de Pologne. Et par ailleurs, vous avez un truc que je ne comprends pas du tout, donc je le laisse de côté. On a tous un tas de titres. La discussion sera entamée de ce panel par Sylvia Serrano, qui est professeure à l'Université Paris-Sorbonne et chercheuse associée au CERSEC. Si j'ai bien compris, je dois suivre l'ordre des communications qui m'a été communiqué. Et nous allons commencer par l'exposé, la communication de Jérôme Heurtaux, qui porte sur la Pologne.
Merci, j'espère que vous m'entendez. Je sais que je n'aurai pas plus de temps, donc je vais être très très rapide. Je dirige en effet actuellement le CFRES. Je voulais simplement transmettre l'information suivante à la communauté académique et à mes collègues, notamment enseignants-chercheurs, c'est qu'ils ont la possibilité de demander une délégation pour venir au CFRES, passer une année, voire deux années, et que la deadline pour 2020, c'est février 2020. J'ai transmis.
Alors, je suis partout.
Là, vous seriez bienvenu. Ça vous fera un titre de plus. Alors, Pologne 89, la première révolution électorale. Alors, le titre de cette communication peut surprendre, peut même être perçu comme provoquant par les spécialistes des dites révolutions de couleur ou autres révolutions électorales dans les anciennes républiques soviétiques. En fait, il faut plutôt appréhender ce rapprochement comme une invitation à penser conjointement des épisodes historiques qui ont été pensés et interprétés, et j'allais dire classés, comme fondamentalement différents. Depuis qu'ils sont advenus. Et je crois que c'est aussi le rôle d'une organisation comme la SFRES de rapprocher l'ère centre-est-européenne et l'ère post-soviétique. Le travail que je vais présenter fait la matière effectivement d'un ouvrage à paraître qui va s'intituler Pologne 89, comment le communisme s'est effondré. Et ce livre, s'il paraît à l'occasion des commémorations, prétend échapper bien évidemment aux controverses mémorielles qui n'ont pas manqué de se réactualiser, en particulier en Pologne. L'idée de départ, c'est qu'il faut revenir à l'histoire pour échapper à l'historiquement correct ou à l'historiquement incorrect, pour citer Becker et Audouin Rougeau, et à toutes les formes d'instrumentalisation mémorielle du passé. Ce retour à l'histoire, ou au sens social, est essentiel pour comprendre ce qui m'apparaît toujours comme une énigme. Comment les régimes communistes se sont-ils effondrés, ont-ils pu s'effondrer dans un espace-temps si réduit, avec une telle ampleur et une telle rapidité? Et puis comment, plus généralement, c'est une question de sens social qui me semble être passionnante, comment les régimes s'effondrent-ils? Alors je me suis concentré sur la Pologne, et le parti pris de mon travail est d'adopter une approche micro-sociologique, de reprendre l'histoire de l'effondrement du communisme en Pologne, en mobilisant des matériaux de seconde main, mais aussi de première main, dont beaucoup sont inédits. La thèse, est double. Le premier argument est de dire que la chute du communisme en Pologne est en premier lieu l'effet inattendu et paradoxal d'un processus politique qui avait pour principal objectif de sauver le régime de son effondrement possible. Et le second argument, qui consiste à dire que les élections de juin 89, dont il a été question tout à l'heure, ont joué un rôle particulier dans ce processus, voire déterminant, rôle que les récits sur 89, dans l'historiographie notamment, qui se sont plutôt focalisés sur la table ronde, sur les pactes entre élites, qui ont suscité beaucoup de fascination, les élections ont souvent été, si vous voulez, minimisées, voire occultées dans cette reconstitution de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'introduis dans le débat, à propos de la Pologne, cette notion de révolution électorale, car me semble-t-il, la campagne électorale, le vote aussi, ont été des moments d'intense mobilisation sociale qui ont manifesté, à l'occasion de 89 en Pologne, le retour du populaire dans le processus politique. Alors c'est vrai, on ne retrouve pas dans le cas polonais les principales, disons, propriétés constitutives du concept de révolution électorale tel qu'il a pu faire florès plus tard en Géorgie, en Serbie ou en Ukraine. Il n'en reste pas moins qu'il nous permet, dans le cas polonais, de réévaluer le rôle de l'action collective dans l'effondrement du communisme. Au fond, elle rend justice à des acteurs souvent minorés. Et puis surtout, elle insiste sur le fait que l'annonce des résultats des élections de juin a accéléré le changement politique et l'effondrement du régime en suscitant un échange de coups entre protagonistes. Dans aucun autre pays de la région, les élections n'ont été aussi centrales pour le processus de décomposition du régime. En Hongrie, République tchèque, Roumanie ou Bulgarie, par exemple, les premières élections démocratiques ont servi de ratification d'un changement de régime déjà largement avancé, même si, bien sûr, dans les cas roumains et bulgares, elles ont permis à des forces issues de l'ancien régime de conserver le pouvoir. Alors, je vais intervenir en trois points, en passant très très rapidement sur les deux premiers, parce que je voudrais me concentrer sur le troisième. Je vais d'abord très vite revenir sur ce que j'appellerais, en fait, ce qu'on a appelé avec Frédéric Zalewski dans un ouvrage un peu plus ancien qui s'appelait Introduction à l'Europe post-communiste, les conditions de possibilité du basculement. L'idée étant d'éviter une approche causale pour expliquer la chute du communisme en Europe centrale, en particulier en Pologne. Cela étant, on ne peut ignorer que des conditions de possibilité se soient constituées dans ces pays, et notamment en Pologne, et qu'on peut caractériser par une triple crise. Une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Crise économique d'abord, ralentissement de la croissance, aggravation de la pénurie, effet du choc pétrolier, augmentation de la dette publique. Crise sociale, avec l'apparition de la nomenclatura, la panne de l'ascenseur social, la désillusion du monde ouvrier. Le communisme, au fond, a modernisé ces pays, mais cette modernisation a été partielle et déséquilibrée, et elle a aggravé le retard par rapport à l'Europe de l'Ouest. Crise politique, enfin, qui est une crise de légitimité, de régimes et de partis qui apparaissent comme largement irréformables et qui voient leur soutien se dérober peu à peu, y compris parmi les groupes qu'ils ont privilégiés, et je pense ici aux ouvriers. Les tentatives de démocratisation de l'intérieur, comme le printemps de Prague, celles de démocratisation dans la société, accord de Gdansk en 80, échouent. On note l'apparition des dissidents, et c'est dans ce contexte que se forme une fenêtre d'opportunité liée à la vague réformatrice lancée par le nouveau dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev, qui rompt avec la doctrine Brejnev. Voilà le cadre, en quelque sorte, si vous voulez, du récit que je voudrais vous proposer. Je vais davantage m'intéresser au temps court, à ce qui se joue entre 87 et 89, et que j'appelle de manière très, très générale le basculement. En fait, il est assez courant de lire ou d'entendre que la triple crise dont il a été question explique, détermine le changement. Or, si on adopte une autre perspective et qu'on s'attache aux représentations des acteurs, aux échanges de coups, pour citer quelqu'un, aux interactions entre un certain nombre d'acteurs, on se rend compte finalement que ce qui se joue dans l'événement compte tout autant pour l'analyse que ce qui se joue avant l'événement. Et je crois que c'est au prix de cet effort de prise en compte de ces éléments que l'on peut comprendre, un, que les changements aient pris des formes différentes d'un pays à l'autre, selon des rythmes différents, l'appropriation de la politique gorbatchevienne n'a pas été la même d'un pays à l'autre, et comment, dans le cas polonais en particulier, les principaux artisans du changement de régime ont provoqué son effondrement sans du tout l'avoir anticipé. Alors pour résumer, les autorités polonaises et le général Jaruzelski ont progressivement compris que les réformes que la crise économique rendait nécessaires supposaient un dialogue avec l'opposition afin de décourager d'éventuelles protestations, et ils se sont saisis de la politique réformatrice de la perestroïka pour tenter de coopter l'opposition afin de stabiliser le régime. Ce n'est pas du tout évident, ça a pris du temps, et il a fallu au fond les grèves ouvrières de 88 pour les décider à faire enfin appel à une partie de l'opposition, Solidarité. L'opposition, de son côté, sut interpréter les signes d'ouverture donnés par le régime et voyait la possibilité, dans ce dialogue avec le régime, d'une officialisation, enfin d'une relégalisation de Solidarité qui avait été interdite le 13 décembre 81, lorsque le général Jaruzelski avait proclamé l'état de guerre. Et d'ailleurs, le Bronisław Geremek propose au pouvoir ce qu'il appelle un pacte anticrise. La route était ouverte pour ce qui allait être une négociation inédite entre le pouvoir et l'opposition, qui a pris la forme donc d'une table ronde. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'à aucun moment, lors de cette période, les futurs participants à la table ronde n'envisageaient qu'elle puisse signifier la sortie du communisme. Au fond, la table ronde, c'est moins l'événement inaugurant de la transition démocratique, ça c'est une interprétation ex post, qu'une solution institutionnelle de sortie de crise, pour citer le même quelqu'un, qui verra des adversaires politiques s'entendre sur des règles pour eux avantageuses. Et puis surtout, et c'est le cœur de mon travail justement, j'ai choisi de travailler sur les élections de juin 89 et sur la campagne électorale. Ça, je viens de le dire. Je rappelle juste les éléments qu'il faut avoir en tête à propos de ces fameuses élections. Alors, certes démocratiques et en même temps semi-démocratiques, pourquoi ? Parce que, pour ceux qui n'ont pas plus ça en tête, à la Diète, 65% des mandats sont réservés aux candidats du pouvoir, mais tous les mandats réservés au pouvoir sont répartis selon une logique de quotas, si vous voulez, en fonction de la force des différents partis et organisations officielles. Ces mandats ne sont pas ouverts à la concurrence libre. Par contre, tout le monde peut voter pour eux. Et puis, il y a 35% des mandats qui sont ouverts à non pas l'opposition, qui sont ouverts à la compétition libre. Et donc chacun peut être candidat. Justement, il y a en quelque sorte, un scrutin pluraliste. Et à côté de ça, dans le Sénat, qui est une institution créée suite aux accords de la table ronde, effectivement, 100% des mandats, en fait 100 mandats, puisqu'il n'y avait que 100 élus, 100 sièges, pardon, sont ouverts à la concurrence libre. Mais ce qui est important, c'est qu'il est décidé à la fin de la table ronde que ces élections, qui donc organise la cooptation de l'opposition, qui en fait ne voulait pas au début, mais qui s'est rallié à cette idée, ces élections devaient être compétitives, mais pas conflictuelles. On appelait ça en polonais « konkurencja bez konfrontacji ». Donc concurrence, mais pas de confrontation. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier les stratégies des acteurs et la campagne électorale, en mobilisant aussi les outils de la sociologie du droit, pour montrer comment cette élection qui ne devait pas être compétitive, qui ne devait pas être conflictuelle, pardon, est devenue conflictuelle et, in fine, a joué un rôle très important dans l'accélération du processus de décomposition du régime par la suite. Alors, comment les choses se sont-elles passées ? J'étudie donc les usages de la règle juridique et je montre que, d'un côté, les communistes, qui sont sûrs d'eux-mêmes, assurés de gagner l'élection, parce qu'ils ont toujours gagné les élections en Pologne, se préparent à une élection comme les autres, agissent en fonction de routine, et s'autorise même une innovation surprenante, puisqu'ils autorisent plusieurs candidats à se présenter sur les mêmes mandats, permettant par exemple à ceux qui réunissent 3000 signatures d'électeurs dans la circonscription de présenter leur candidature en se passant de l'investiture du parti. Et tout ça va en fait inciter certains membres du Parti communiste à s'engouffrer dans la brèche, dans cette espèce d'interstice juridique, et présenter leur candidature, qui vont en fait effriter le monopole, mais surtout contribuer très très largement à empêcher que les candidats du camp du pouvoir soient élus dès le premier tour, le jour du 4 juin 89. Et de l'autre côté, les leaders de Solidarité, qui sont représentés dans la campagne par un comité civique, font exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour éviter l'éparpillement des candidatures indépendantes, ils cherchent à transformer le scrutin en plébiscite, présente un seul candidat par mandat et cherche à produire une offre homogène, en revendiquant aussi une hégémonie sur l'ensemble de l'opposition polonaise. C'est en partie pour ces raisons, pas les seules bien sûr, mais ces raisons qui relèvent au fond d'une histoire micro-événementielle, si vous voulez, que le résultat des élections a été immédiatement interprété comme une victoire de solidarité. Cette interprétation comme une victoire de l'opposition a pu aussi s'imposer parce que la campagne, loin d'être la scène d'une compétition, disons, au nom du consensus, s'est transformée en confrontation bloc contre bloc. Solidarité, par exemple, a très fortement conflictualisé. Certains tracts disaient « Communistes, communistes, buvez du lait car votre faim est pour bientôt. Les bolcheviques à la morgue. » Ou bien encore « Le communisme, c'est la syphilis des nations. » Et appeler les électeurs à biffer les noms de la liste nationale, qui était une liste sur laquelle on avait les représentants des principaux partis. Et le pouvoir a répondu, bien évidemment, aux attaques de solidarité en dénonçant, par exemple, le parachutage des candidats de Solidarność, leur méconnaissance des problèmes régionaux, les menaces liées à une éventuelle privatisation, l'aide financière, bien évidemment, accordée par l'Ouest, etc., etc. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que dans cette séquence historique très brève, il y a une part très importante d'imprévisibilité, qui permet de comprendre comment ces élections vont se transformer en véritable confrontation. Et l'une des manières, justement, de l'illustrer, c'est de regarder la campagne électorale, les tracts, les brochures, les affiches, les modes de présentation de soi des candidats. Et c'est le cœur, en fait, de mon intervention. Même s'il me reste 5 minutes, je vais aller vite. Oh, c'est gentil. J'appelle ce troisième point la représentation politique, pardon, je vais trop vite sur la traduction anglaise, du social ou de la société. Pourquoi ? Parce que ce moment électoral a contribué justement très fortement à la conflictualisation en mettant en scène deux personnels politiques distincts, où s'affrontent des profils politiques concurrents. C'est aussi un moment de redéfinition, de recomposition de certaines, règles de légitimité politique, notamment dans le domaine de la représentation politique du social. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que finalement, là, il y avait une plus forte diversité sociologique dans les mises en scène, hein, du côté des candidats du pouvoir que de l'opposition. Et puis je terminerai par dire que même si on observe deux profils différents de personnel politique parmi les candidats, entre ceux de solidarité et ceux du pouvoir, en fait, ils se rejoignent dans une forme de sélection de type élitiste de la représentation. Alors très vite, d'abord, sur les candidats du pouvoir, voilà ce que je viens de dire en anglais pour les anglophones, je ne sais pas s'ils sont très nombreux. Ça, c'est une affiche de solidarité qui montre bien justement les répartitions des voix, le jeu avec le drapeau, comme vous pouvez le voir. Alors, du côté du pouvoir, comment ? Du côté du pouvoir, la stratégie est assez simple. Coopération, mise en scène de la coopération, du consensus. Il faut rester dans l'esprit des accords de la table ronde et montrer que Zgoda boudouille. Voilà, le compromis, l'accord est constructif. Et donc les affiches du camp du pouvoir n'ont de cesse que d'insister. Mais on ne voit pas en fait là. Hein? C'est vrai, vous voyez ? Bon. D'insister vraiment sur cette idée de polozumienie, d'accord, de compromis, de consensus. L'idée est de déconflictualiser la campagne électorale, voire se réapproprier le fameux « mais nous », qui jusque-là était véritablement le vocable de l'opposition, « eux contre nous », la coalition gouvernementale se le réapproprie dans la campagne, mais tout en étant inclusif, merci, en disant « Hoche z nami, venez avec nous ». Donc projet de déconflictualisation, de sélection des compétences, d'euphémisation de la marque partisane. Il y a par exemple ce candidat qui dit « Nalep Chapata Mujitsu », le meilleur parti de ma vie, c'est ma femme. C'est une manière aussi de jouer avec le label parti, si vous voulez. On met en avant très très fortement un certain nombre de profils professionnels, et notamment le super manager, le businessman. Il faut dire qu'à cette période, Certaines entreprises publiques sont en voie réappropriation par certains de leurs dirigeants dans le cadre de la privatisation, et que d'une manière générale, ce que montre cette campagne, c'est la mise en valeur de profils, de tempéraments, de gagnants, de leaders dans leur secteur d'activité. Par exemple, Niesgoda le nouillet, Nowicki boudouillet. Donc le désaccord ruine, mais Nowicki, lui, il construit. Olaszewski, il fait pareil. Il apporte son tempérament, en quelque sorte, à la vie politique polonaise. Nowakowski, pareil. Et donc on a toute une série comme ça d'affiches absolument, je trouve, intéressantes, où on voit que ces entrepreneurs en représentation développent une stratégie de notabilité, souvent basée sur l'enracinement local, la réussite professionnelle et familiale. Certains, qui n'ont peut-être pas autant de ressources à faire valoir, se présentent aux élections sur les affiches, se présentent dans leur plus simple habit professionnel. On voit des médecins, par exemple, en situation, penchés sur un malade, entourés d'infirmières, fameux Józef Błaszczyk, par exemple, qui a toute une équipe derrière lui et qui n'hésite pas à se montrer ainsi comme quelqu'un de compétent dans son domaine, compétence qui est transmissible, plutôt transposable dans le milieu politique. Les compétences légales et économiques, bien évidemment, juridiques et économiques sont valorisées. Voilà, toute une série de présentations de soi, me semble-t-il, intéressantes, qui montrent, au fond, comment aussi des candidats s'approprient ce moment électoral tout à fait nouveau. Certes, côté communiste, côté du pouvoir, ce n'était pas des élections démocratiques. Mais en fait, on voit apparaître une pluralisation très très forte de l'offre politique à travers ces présentations de soi, qui me semble être aussi un élément de ce moment tout particulier qu'est la première élection semi-démocratique de l'histoire du pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette personnalisation de la candidature s'articule à une mobilisation de la marque de la société, du journal pour lequel on travaille. Et on se montre toujours comme étant le représentant, le porte-parole d'un groupe plus large que soi. Il faut exciper dans la campagne le fait que c'est toute la rédaction de Espace Wieczorne qui soutient son rédacteur en chef. Pareil pour Marek Król, candidat de Wprost. Pareil pour ce candidat qui est à la tête de l'Institut de sondage et qui explique que si tu veux ton opinion au Sénat, eh bien vote pour moi, parce que lui, justement, c'est le porte-parole de l'opinion publique. Et on en a comme ça un certain nombre qui me semble assez intéressant. Les femmes et les jeunes aussi mobilisent en permanence leurs caractéristiques sociales. A l'inverse, chez Solidarité, je vais aller beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup plus connu, parce qu'en réalité, c'est ça sur lequel je voudrais insister, c'est que dans tous les récits historiographiques qui ont été écrits sur cette période, on connaît ces affiches, bon là, je ne peux pas développer malheureusement, on connaît ces affiches de Solidarité, parce que justement, il y a eu une espèce de saturation iconographique quand on a écrit l'histoire de cette période. Là, j'avais une autre interprétation de ce qu'on appelle ici le photomimétisme, cette très très forte valorisation du cycle Solidarité et cette série de photographies de chaque candidat avec Lech Walesa, Lech Wałęsa. Du côté de Solidarité, en quelques mots, standardisation de la campagne, surpolitisation, je vais dire ça comme ça, mise en avant du biographique. Il faut attester que sa biographie est celle d'un militant exemplaire de l'opposition. Il y a même une forme de contrôle biographique, et paradoxalement, ce que montraient Bernard Pudal et Pentier sur le contrôle biographique sur les dirigeants ou les militants du Parti communiste soviétique, en fait, on le retrouve paradoxalement parmi, justement, les candidats de Solidarité à ce moment-là. Et puis, une mise en avant, bien sûr, des qualités éthiques des candidats et politiques. Pour conclure, je dirais que malgré cette diversité très forte des profils, des présentations de soi, des marques politiques, on a tout de même, lorsqu'on travaille sur les caractéristiques sociales de tous les candidats, ce que j'ai essayé de faire, en réalité des logiques de sélection des candidats qui indiquent en fait imprima des professions supérieures et des tenants et de ceux qui disposent de beaucoup de capital culturel et de titres scolaires. De la même manière d'ailleurs que le travail a pu être fait aussi sur la table ronde et démontre la même chose, et qui montre également que cette période, qui est à la fois une période de très forte conflictualité qui va permettre un basculement politique, est aussi une période dans laquelle les acteurs principaux se reconnaissent entre eux et permettent ainsi, au fond, à une transition pacifique de se faire jour. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir donné 3 minutes 14.